Bienvenue dans votre grande table des idées. L'American Way of Life est-il en train de franchir l'Atlantique et de contaminer la France? Invité, l'auteur en 2016 de Rue Jean-Pierre Timbaud sur les fractures françaises, la journaliste Géraldine Smith, auteur de Vue en Amérique, bientôt en France, qui paraît chez Stock. Elle a ausculté l'Amérique et repéré 8 phénomènes dont elle prédit l'arrivée, l'avènement prochain en France. Un récit de l'américanisation de notre monde à la Régis Debré. Truffé d'exemples et d'anecdotes. Bonjour à vous, Géraldine Smith.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous vivez depuis 10 ans en Caroline du Nord, outre les ouragans et les moustiques géants. C'est un état traditionnellement acquis aux républicains. Est-ce que c'est pour vous un condensé de l'Amérique de Trump ?
C'est un état qui est vraiment à cheval entre l'Amérique de Trump et une Amérique très libérale, puisque dans la ville où je suis, il y a 3 énormes universités, très à gauche pour reprendre les catégories françaises. Donc c'est un bon condensé des États-Unis plus qu'un condensé des États-Unis de Trump, s'il fallait le dire.
Quelles sont les particularités de cet état, puisque vous vous êtes appuyé sur votre vie là-bas, sur ces 10 années passées en Caroline du Nord, pour nous raconter l'Amérique telle qu'elle va, et peut-être la France de demain?
C'est un état qui appartient à ce qu'on appelle le sud religieux des États-Unis. Donc, il y a un fort degré de religiosité et un fort enracinement rural. Vous avez les Appalaches, vous avez une population qui compte encore des Indiens Cherokees, des Noirs, donc un état assez divers, mais qui a aussi le plus grand nombre de titulaires d'un doctorat au mètre carré dans la région où on est. Donc vous avez cette espèce de contraste entre un état extrêmement développé qui était assez pauvre et qui aujourd'hui est le 8e état le plus riche des États-Unis et une espèce d'ambiance qui reste très, très rurale.
Précisons peut-être juste tout de suite que le décor de votre essai est le même que celui du roman d'Agnès de Sarthe, La chance de leur vie, qui est apparu à la rentrée aux éditions de l'Olivier, où un couple de Français, Sylvie et son mari Hector, déménagent en Caroline du Nord après que lui a trouvé un poste de professeur à l'université. Et la romancière, un peu comme vous, évoque aussi l'indifférence polie, les conventions sociales, l'hypocrisie, l'ennui des personnes rencontrées. Alors de quoi l'Amérique est-elle le laboratoire? L'Amérique, écrivez-vous, est le champ d'expérimentation de la mondialisation. Dans un monde connecté, il est normal qu'il y ait aussi des échanges, qu'il y ait du mimétisme, mais vous insistez particulièrement sur ce patchwork identitaire qui est en train de s'écrire. Vous racontez aussi les vies de famille désynchronisées, les horaires de travail extensifs, le culte du drapeau, les nombreuses références à Dieu. Pour comprendre, vous avez retenu 8 phénomènes qui vous paraissent représentatifs, avec 2 dominantes: la quête de lieux sûrs et la recherche du bonheur. Ouvrons avec cette recherche du bonheur, cette pursuit of happiness, un droit inaliénable inscrit dans la Constitution aux États-Unis. On veut toujours avoir l'air d'aller bien. Écoutez Régis Debray.
Le bonheur, je dirais que c'était une idée neuve en Europe, disait Saint-Just, vous vous rappelez, après la Révolution, mais lui, il ne pensait pas du tout au bien-être corporel, il ne pensait pas au bien-être individuel. Le bonheur pour lui, c'était la dignité des pauvres. Ouais. C'était l'égalité, au fond, entre pauvres et riches. Le bonheur américain, qui figure, je dirais, dans la déclaration d'indépendance, c'est la recherche de la richesse et de la prospérité individuelle. C'est l'idée qu'il faut être prospère pour être libre. Le bonheur, ça va avec la crème et le sucre. Donc ça va avec le Coca-Cola, qui doit être avec beaucoup de glucides, et ça va avec tout ce qui est de la cream, du yogourt, du porridge, c'est-à-dire de tout ce qui est mou. Il faut que ce soit à la fois mou et sucré. C'est le retour au plaisir d'enfance, mais c'est aussi l'obésité. Donc il faut tout de même des médecins.
Alors c'est l'obésité, ce glissement du bonheur et du plaisir, Géraldine Smith, mais pas seulement. Cette quête de bonheur, jusqu'où mène-t-elle ?
D'abord, je crois que Régis Debray est un peu dur, amusant, mais un peu dur, dans le sens où les Américains sont souvent beaucoup moins mous que beaucoup d'Européens, très résilients, toujours prêts à repartir à l'assaut. Et justement, et c'est vrai qu'ils ont cette obsession de poursuite du bonheur, mais ils sont prêts à faire énormément d'efforts pour l'obtenir. Donc, je dirais pas que c'est un univers qui est forcément mou, sucré, oui, certainement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les États-Unis se sont construits par une agression d'agrégation de populations qui immigraient depuis l'origine. Donc c'est un pays, par essence, un pays d'immigrés. Et la nation s'est construite sur l'idée que chacun avait un droit inaliénable à être heureux et à s'en sortir et à réussir. Chacun pouvait conserver un très très fort individualisme et tout ce qui constituait, tout ce qu'il apportait en héritage, mais que tout ça devait être allait être réuni par un sentiment d'allégeance à la nation et sous l'ombrelle d'un espèce de contrat de citoyenneté. Et à partir du moment où l'Américain respecte le drapeau, d'où le drapeau, chante l'hymne national, est fier d'être Américain, c'est tout ce qu'on lui demande. Et à ce moment-là, il est un citoyen américain. Et dans cet univers-là, l'individu est vraiment glorifié. C'est ce qu'on a, vous voyez, plus que toute autre chose. Et donc l'individu et donc sa quête d'accumulation matérielle qui est censée correspondre au bonheur.
Alors vous dites c'est un droit, mais c'est aussi devenu un devoir, ce bonheur, d'une certaine manière. On veut toujours avoir l'air d'aller bien. Il est mal vu d'aller mal aux États-Unis. Et pour aller bien, eh ben on va se servir aussi de tous les artifices possibles. Vous racontez qu'il y a aujourd'hui aux États-Unis une véritable épidémie des opioïdes, de drogues sur ordonnance ou au marché noir, que l'addiction aux opioïdes est un fléau américain, déclaré d'ailleurs d'urgence nationale de santé publique par Donald Trump l'année dernière, qu'à la consommation succède souvent l'addiction et la mort par overdose, qui est aujourd'hui l'une des premières causes de décès chez les moins de 50 ans. Elle tue plus que les accidents de la route. Vous nous rappelez tout ça. Cette épidémie, elle répond à quoi? Pourquoi faut-il en permanence lutter contre le stress et l'anxiété? Quels sont les ressorts?
Alors, dans le cadre des opioïdes, c'est retraçable et c'est assez effrayant. Et puisque c'est quelque chose qui vient en France, comme on est en train de le constater ces jours-ci, c'est important de voir qu'au départ, c'est des prescriptions faites par les médecins dans l'espoir de supprimer toute douleur. Comme vous le dites, les Américains veulent le risque zéro et veulent la douleur zéro. Donc ça a été ajouté comme un critère dans les hôpitaux, le fait que les patients allaient noter sur une échelle de 0 à 5 le degré de souffrance ou de douleur qu'ils avaient ressenti. À partir de ce moment-là, pour être bien noté, les hôpitaux se sont mis à prescrire massivement ces opioïdes qui suppriment la douleur, de façon à être bien notés par leurs patients. Or, ces opioïdes sont extrêmement addictifs. Donc les gens qui, pour se soigner, même pour soigner une dent ou un petit problème, prenaient ces opioïdes, se sont retrouvés accros et ça a entraîné en partie l'épidémie qu'on connaît. Ça, c'est un aspect donc, qui est vraiment un glissement et une erreur du corps médical. L'autre aspect, c'est qu'il y a un degré d'anxiété énorme aux États-Unis. À peu près 15% de la population est officiellement reconnue comme souffrant de troubles anxieux, qui est l'incapacité à maîtriser un stress croissant qui a des causes multiples dont on peut parler, notamment la disqualification de l'expertise, la certitude qu'on peut tout régler soi-même en regardant sur Internet une vidéo, on va expliquer comment il faut changer votre robinet. Le fait qu'on ne fait plus confiance à personne et qu'on pense qu'on peut trouver quelle maladie on a en regardant sur Internet, qui est en fait une immense, si vous voulez, une quantité d'informations qui sont en réalité une source d'anxiété énorme que les gens pensent pouvoir régler en prenant effectivement des médicaments.
Oui, mais c'est même culturel, hein, c'est ce que vous racontez aussi. Il faut aujourd'hui montrer qu'on a la pêche, qu'on va bien et qu'on est bien. C'est devenu énorme marché, un énorme business pour tous ceux qui gravitent autour. Alors ça passe par tout ce qui se vend sur Internet, mais aussi de la part des industries pharmaceutiques et des médecins qui prescrivent. Ils ont presque parfois des rôles de dealers en la matière.
Absolument, il y avait des moulins à pilules, ça s'appelle, qui vendaient des quantités astronomiques pour le prix d'une consultation, des quantité astronomique de médicaments. L'injonction au bonheur, elle se résume dans quelque chose qui est assez frappant quand on vient de France. On envoie tous les ans les Américains envoient des cartes de Noël avec une photo de famille et vous avez des amis que vous voyez avec leurs problèmes, les problèmes qu'on a tous dans le quotidien, et quand arrive la photo de famille de la carte de vœux, tout le monde est aligné en randonnion dans sa plus belle chemise, souriant, et c'est accompagné d'un mot qui ne parle que de choses formidables qui sont écoulées, vous voyez. Et ça, c'est le contraste, et parfois ça arrive de gens dont vous savez qu'ils ont divorcé il y a 15 jours. Et donc ça, c'est vraiment cette image où il faut perpétuellement, effectivement, donner l'impression qu'on va formidablement bien, alors que... Bien sûr, c'est démenti, ne serait-ce que par le taux de médicalisation qui touche non seulement les adultes, mais effectivement, depuis un certain temps, les enfants.
Alors les enfants aussi, vous titrez l'un de vos chapitres à l'école des amphétamines, des neurosciences à la prescription des pilules pour améliorer les résultats scolaires. Il y a une véritable pathologisation des comportements enfantins. Derrière la quête de bien-être de l'enfant, finalement, on l'endort, on essaye d'enlever tout ce qui paraît peu normal. Trop excité, le jeune Bart Simpson a lui aussi eu le droit à sa dose de Ritaline pour, de la part de ses parents, peut-être tenter de maximiser son potentiel.
Bart, on oublie toute cette histoire de médicaments. Tu devrais descendre, papa t'a acheté de la bonne guimauve.
Bien joué, Homer.
Allez, juste une bouchée si t'es pas 100% différent. Tom, c'est pas la mort, regarde, j'en mange. T'es...
Comment ce Simpson est possédé par un démon?
Ça m'en a tout l'air. Apportez-moi mes places d'exorciste.
Ouais! Trésor, si tu veux pas prendre ce médicament, on ne forcera pas.
Juré.
Mais je croyais que tu m'aimais assez pour accepter que je t'aide, mon chou.
Oh, man. D'accord, je le fais pour toi.
Bravo, tu l'as bien né.
Oh, c'est mon rôle.
Voilà, les Simpsons, le symbole de la famille, de la classe moyenne américaine. On entend dans cet extrait à la fois l'enfant, Bart, qui doit prendre ses médicaments, mais aussi la mère qui le met sous pression, et on sent qu'elle l'est elle-même mise sous pression. Vous racontez aussi dans cet ouvrage, Géraldine Smith, les dérives du parenting, le « c'est mon rôle », quelle pression les parents se mettent, et comment ils la traduisent sur leurs enfants.
En fait, ce qui est intéressant, c'est l'effet de ciseau entre un modèle éducatif qui est devenu au fil des ans, ça n'a pas toujours été comme ça aux États-Unis, mais qui est devenu un modèle extrêmement peu contraignant. On estime que l'enfant est bon par nature et que il faut jamais le gronder, c'est même extrêmement mal vu, c'est par la négociation qu'on arrivera à éduquer l'enfant et le contraire le moins possible. À côté de ça, donc vous avez des enfants très libres, on peut dire mal élevés, on dit comme on veut, mais bon. À côté de ça, vous avez une attente des familles et particulièrement des mères en termes de performance qui est extrême, avec toutes les activités extrascolaires, le sport, la musique, tout ce que vous voulez. Donc on veut avoir un génie, un champion et un super fort en maths, mais en même temps, on l'éduque d'une façon extrêmement peu contraignante. Et ce qui se passe, c'est que toute la pression, en fait, se retrouve sur les épaules des enfants, puisque sans avoir jamais vraiment eu de frontières et de bornes, on leur demande d'avoir des performances extrêmement difficiles à obtenir. Et c'est ce qui fait que ces enfants se retrouvent très souvent chez le psy. Les pourcentages sont extrêmement inquiétants. Et que pour les aider, il y a donc ces pilules qu'on appelle de la Ritaline, qui sont des médicaments qui provoquent une réaction du cerveau qui fait qu'on est beaucoup plus performant en termes de résultats scolaires. Et donc, c'est normalement des médicaments pour traiter un désordre particulier, un trouble du cerveau particulier, une vraie maladie, mais c'est utilisé énormément, de manière massive, par les enfants, soit donnés par leurs parents, soit achetés par les étudiants, pour réussir ses examens, passer ses contrôles, aller en classe.
Cette pression, cette compétition, vous la retrouvez aussi en France aujourd'hui, ou en tout cas les germes de cela, vu en Amérique, bientôt en France?
Alors pour le moment, oui, j'ai constaté qu'en France, pour le moment, les prescriptions de Ritaline pour cette maladie de TDAH sont encore très contrôlées, mais il y a une évolution très très nette depuis 2-3 ans vers des prescriptions données beaucoup plus facilement par les médecins sous la pression des parents et vers la prise de ces médicaments par les étudiants, en particulier les étudiants de médecine, qui achètent ça sur Internet maintenant, où c'est extrêmement facile de se procurer. Parce que si vous avez un examen de 6 heures et que vous prenez un de ces médicaments, vous êtes quasiment sûr de passer 6 heures concentré sans bouger. Mais c'est une drogue. mais que vous pouvez acheter pour quelques euros sur Internet.
Mais globalement, sur les enfants, et notamment en plus bas âge, est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'en France, le système scolaire, l'éducation, culturellement, ne fonctionne pas de la même manière? On parle d'ailleurs plutôt d'enlever les notes aujourd'hui, de réduire ce système de compétitivité pour appuyer plus les acquis des enfants et comprendre aussi leurs différences.
Mais vous savez, la pression vient très souvent des parents plus que du système éducatif. Aux États-Unis, dans le système scolaire, la pression est en réalité moins forte qu'en France, officiellement. C'est-à-dire qu'on ne vous met jamais une mauvaise note, on change de classe. Mais la pression vient de la société, de l'injonction à réussir, de la difficulté, de l'anxiété anticipée de trouver un emploi, de faire de bonnes études. Et donc, c'est beaucoup plus les parents que les enseignants qui mettent la pression sur leurs enfants.
Géraldine Smith, dans cet ouvrage « Vu en Amérique, bientôt en France », vous racontez qu'il y a aux États-Unis et dans cette Caroline du Nord que vous avez plus spécifiquement ausculté, une montée d'anxiété diffuse à tous les âges et à tous les étages de la société. Un droit de se sentir en sécurité est en train d'émerger. On a envie de se protéger de tout, alors autant des bactéries qui pourraient nous contaminer que des crimes qui pourraient arriver à côté de chez nous et peut-être sur nous un jour. Qu'est-ce que ça traduit pour vous, tout ce désir de maîtrise aujourd'hui?
Ce qui se passe, c'est que vous avez aux États-Unis un taux de criminalité, par exemple, qui a énormément diminué, et la perception d'être en danger augmente. Alors que donc nous sommes dans une société de plus en plus sûre, les gens ont l'impression d'être dans une société de plus en plus dangereuse. Et donc il y a ce décalage. Mais aujourd'hui, je pense qu'en en raison du recentrage sur l'individu, de la société, du recentrage toujours plus grand, l'individu estime que s'il se sent en danger ou pas bien, c'est ce qui compte et ce n'est pas le fait d'être vraiment en danger. Donc à partir du moment où c'est la perception qui joue et non pas la réalité, il y a pas de limite à ce que l'individu cherche à faire pour se protéger. Et en particulier aux États-Unis, ça se traduit par exemple le refus de toute forme de débat, de discussion, qui est vécu comme une agression, la recherche d'espace où on est avec les siens, donc ça peut être avec ceux qui mangent comme nous, ceux qui sont de la même couleur de peau, ceux qui sont de la même orientation sexuelle, pour ne jamais, jamais être confronté à une opinion contraire ou à une hostilité de quelqu'un qui pourrait éventuellement vous contredire, par exemple.
Alors quand le danger réel diminue, mais que le sentiment du danger augmente, il y a toute une industrie qui va se greffer autour de ça, une sorte de business de la peur que vous racontez à travers des applis, des entreprises. Il y a toujours une réponse à tout, quelque part, qui finalement engrange encore plus de stress ou d'anxiété plutôt que d'y répondre. On a le sentiment à vous lire d'émotions qui sont aussi entretenues par l'environnement. Sur ce concept de lieu sûr qui est en train de se mettre en place ou se développer aux États-Unis, comment vous pouvez nous le décrire? Comment ça se traduit?
Alors, les lieux sûrs, c'est essentiellement sur les campus universitaires. Auparavant, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, la paranoïa est alimentée par... Plus on a d'informations, plus on peut devenir paranoïaque, parce que vous n'allez jamais trouver toutes les réponses, mais vous allez avoir l'impression que le danger augmente autour de vous avec ces applications, par exemple, qui vous expliquent qui sont les criminels dans un rayon de 5 km autour de chez vous. Mon voisin a ça, et il est persuadé qu'on est cerné par des pédophiles. Parce que vous pouvez cliquer sur une petite carte et là vous voyez s'afficher, clignoter en réalité les casiers judiciaires de tous les gens depuis 30 ans dans votre quartier. Et c'est très effrayant et c'est pas du tout rassurant. Donc il y a une illusion du contrôle qui en fait alimente toujours plus d'anxiété. Ça c'est une chose. Les safe spaces, les lieux sûrs, ça c'est présent essentiellement sur les campus. Et l'idée c'est que ce sont des espaces où, physiques, hein, ce sont des pièces où on peut se rendre et où d'où sont bannies toute discussion critique, toute forme de danger justement ressenti et qui dans certains lieux peuvent aller jusqu'à la présence de coloriage, de coussins, des couleurs gays, des bonbons et qui sont censés rassurer. Évidemment, le problème que ça pose, c'est qu'à partir du moment où on crée un espace qui est un lieu sûr, ce qu'on sous-entend, c'est qu'en dehors de cet espace, le monde est dangereux. Donc ça ne fait toujours que renforcer les choses qu'on est supposé combattre. Et l'idée, c'est aussi que quand des gens se regroupent ensemble en fonction de leurs affinités, par exemple de race, parce qu'aux États-Unis, le terme de race est employé couramment, ça va leur permettre de s'épanouir et d'aller ensuite vers l'extérieur en ayant bénéficié d'un lieu rassurant qui permet leur épanouissement intellectuel.
Alors, est-ce que ces lieux sûrs arrivent aussi en France ? À Tolbiac, en avril dernier, des ateliers de non-mixité, enfin des ateliers non-mixtes plutôt, ont fait polémique, certains dénonçant une dérive communautariste. Écoutez.
Le but, c'est de faire des AG en non-mixité raciale. Ça veut dire qu'en fait, ces AG, elles sont organisées par des racisés, donc des personnes de couleur, pour entre eux parler des oppressions, parce que l'oppression, le racisme, c'est une oppression qui existe dans notre société et qui a toujours existé et qui existera peut-être toujours. Et donc ça, ces AG, elles sont organisées par des personnes racisées. Ces personnes pour les AG en non-mixité de genre, c'est organisé par des femmes et des minorités de genre pour parler des oppressions, pour parler du sexisme en dehors, pour libérer la parole en dehors de tout ce qui est les hommes cis blancs, etc., qui peuvent être des oppresseurs.
Vous voulez dire que pour qu'une parole s'exprime, il faut se sentir protégé, entre guillemets, à l'écart, entre soi.
Oui, mais évidemment, ces AG, elles sont minoritaires. C'est un atelier ici, c'est une AG ici. Il ne s'agit pas de faire de toute l'occupation en permanence une non-mixité. Mais l'inverse n'a pas lieu d'être, puisqu'il n'y a pas d'oppression des racisés envers les blancs dans notre société.
Alors, c'est beaucoup moins accepté quand même en France qu'aux États-Unis.
Je pense que aux États-Unis, ça fait aussi l'objet de débats et toutes les tendances qui sont dans le livre, c'est des choses que je vois venir. Ça ne veut pas dire qu'elles sont encore là, mais je crois vraiment que, en particulier, cette tendance-là va venir en France de la même manière parce que ça correspond à la même logique, qui est de dire, c'est ce qu'a expliqué cette personne, qui est de dire. Pour pouvoir nous exprimer ou lutter ou nous affirmer par rapport à l'extérieur, il faut d'abord qu'on se sépare du groupe, qu'on se regroupe. Et c'est à partir de là qu'on pourra s'exprimer. Donc, c'est une logique de division et de constitution de petits groupes homogènes qui est censée avoir comme finalité l'ouverture vers les autres. Mais en réalité, ce qu'on constate aux États-Unis, c'est que ça n'aboutit jamais à cette finalité. Je raconte dans le livre l'exemple qui arrive à mon propre fils qui veut habiter avec un camarade noir sur un campus et la communauté noire, une fraternité, dit que ça n'est pas possible. Parce que l'étudiant noir doit rester avec ses frères de couleur. Discussion, le résultat, c'est la logique de la chose, c'est de dire, pour pouvoir un jour pouvoir vivre tous ensemble, pour améliorer le vivre ensemble, il faut qu'on commence par se séparer, et à partir de là, on arrivera à un niveau d'égalité qui nous permettra de tous vivre ensemble. Ce qui se passe en réalité dans les faits, c'est que chacun vit de plus en plus séparé, qu'on n'arrive jamais.
Il n'y a pas en France un universalisme qui nous protège de ce type de comportements sociaux ? Est-ce que vous pensez vraiment qu'avec la culture qu'il y a en France aujourd'hui, on peut en arriver là ?
Ça, c'est la vieille France. Vous parlez de la France d'hier, déjà. La France d'aujourd'hui, et la France de, en particulier la France de demain, c'est une France dont la démographie évolue énormément. 20% des Français aujourd'hui sont des immigrés de première ou de deuxième génération. C'est une France qui change. Et cette France-là, elle ne se reconnaît pas dans ce que vous appelez cet universalisme. Elle a des codes différents. Elle estime qu'être français, ça n'est pas forcément se conformer à ce qui était jusqu'à une période récente, les caractéristiques qui faisaient qu'on était français, justement. Que ce soit dans les prénoms, dans les goûts, dans les envies. Et donc, moi, je crois vraiment que, oui, la France de demain, la France qui se présage, ressemblera à la France aux États-Unis.
Ça n'implique pas forcément une organisation sociale et culturelle complètement différente, basculement du nombre que vous évoquez. Mais si on prend un autre exemple, Géraldine Smith, vous évoquez le consentement qui est devenu aux États-Unis et notamment depuis l'affaire Weinstein, la clé de voûte des relations hommes-femmes. Le mouvement MeToo a pris le relais hors des campus après l'affaire Weinstein et que tout se cristallise autour de cette question du consentement entre un homme et une femme quand ils veulent avoir une relation sexuelle notamment. Sauf que si on prend le cas français, aujourd'hui toutes les féministes françaises soulignent que le mouvement MeToo a été l'un des moins suivis en France par rapport au reste de l'Europe. C'est-à-dire qu'on a été assez peu gagné par ce mouvement qui a été effectivement d'ampleur aux États-Unis, qui a eu trois vagues noms de harceleurs qui ont fuité dans les médias, qu'en France, beaucoup de femmes se sont aussi levées pour défendre à tort ou à raison notre exception culturelle, la galanterie. Et depuis que cette bataille de l'écriture inclusive que vous citez également a quand même plutôt été une débâcle pour ses partisans. Vous parlez du mansplaining ou du manspreading, cette idée que par exemple les hommes ne peuvent pas écarter, il faut qu'ils aient des positions convenables, ne pas écarter les jambes. Ça aussi, c'est des micro-phénomènes très anecdotiques qui ont vécu deux jours en France sous la forme d'un hashtag sur les réseaux sociaux. Donc on est quand même loin d'être gagné par cette vague-là aussi.
Je pense que pour l'instant c'est trop tôt et vous avez raison de dire que la France n'a pas rebondi complètement sur l'histoire de consentement qu'on avait aux États-Unis. Les relations entre les hommes et les femmes sont très différentes en France et aux États-Unis. Et on grandit, on évolue de manière beaucoup plus séparée dans la vie de tous les jours aux États-Unis qu'en France. À l'école, dans l'environnement professionnel, dans la vie privée. Ceci étant dit, quand vous prenez l'exemple de la galanterie, justement, qui a été un exemple très avancé en France pour dire « mais non, en France, il y a ces bonnes relations qui reposent sur la galanterie », ça évolue énormément. Et si vous regardez un ensemble de statistiques, vous apercevez que la galanterie est en train de disparaître en France. C'est-à-dire que quand vous regardez les études qui sont faites dans les écoles, les problèmes vont croissant dans les rapports entre garçons et filles, entre garçons enseignants, en particulier dans les banlieues, et ça fait l'objet de différents rapports qui constatent que, là on n'est plus du tout dans la galanterie, mais que il y a des problèmes entre sexes dans les écoles et dans les lycées aujourd'hui. Donc la France n'est pas du tout encore au stade américain, mais je pense que la France va également suivre la tendance américaine dans ce domaine.
Mais il y avait déjà des problèmes.
Il y avait déjà des problèmes de...
Dans les relations entre hommes et femmes, il y a aussi des inégalités en France. Donc c'est normal qu'à un moment, ces sujets soient posés sur la table et soient aussi en train de se résoudre. Vous, je ne comprends pas très bien, vous êtes en train de nous dire qu'il y a des nouveaux problèmes qui sont en train d'apparaître parce que, dans un sens inversé, dites, dans les banlieues, dans les écoles,
Je pense qu'il y a des revendications féministes qui sont très présentes aux États-Unis. Il y a un féminisme très vindicatif aux États-Unis qui a de grandes chance de se développer en France. Ça, là, on est dans le domaine du consentement. Et je pense que la France, qui se croit protégée de tout problème dans les relations hommes-femmes parce que on aurait une espèce d'exception culturelle, qu'on résume avec le mot galanterie, se trompe. Je pense pas que ce soit quelque chose qui soit... Je pense que rien n'est acquis et que dire « Ah non, en France, on est différent, tout va toujours continuer à bien se passer », je pense que c'est une erreur.
Les revendications identitaires, vous leur accordez aussi une large place dans cet ouvrage, Géraldine Smith, vu en Amérique, bientôt en France. Elles sont liées au genre ou aux origines, ou encore à d'autres mouvements, comme l'antispécisme. Là encore, vous parlez de va-et-vient entre les deux pays, entre les deux côtés de l'Atlantique, ou plutôt d'un va, puisque ça se passerait d'une direction à l'autre. Ces revendications identitaires, vous les percevez comme des dérives ou des avancées? Elles sont présentées aussi comme telles aux États-Unis, comme un combat pour l'égalité et contre les discriminations.
Ce que j'essaye de faire, c'est de regarder ce qu'il y avait derrière ce qu'on caricature souvent. Je vais prendre un exemple. Vous savez, quand, par exemple, Antoine Griezmann, le footballeur, s'est déguisé en Harlem Globetrotter, s'est peint en noir et a eu un retour sur les réseaux sociaux où il a dû s'excuser pour avoir fait ce qu'on appelle le blackface, c'est-à-dire s'être grimé. Sur le moment, en France, on dit « mais comment, c'est un petit déguisement, c'est sympathique ». On peut être complètement choqué et trouver que c'est une dérive identitaire dans le sens où c'est une obsession, c'est ridicule de s'attaquer à un déguisement. Si vous essayez de comprendre ce qui se passe aux États-Unis où le blackface, le fait de se grimer en noir, est vraiment tabou, vous comprenez qu'il y a toute une histoire derrière et que c'était une façon de tourner en dérision les esclaves dans des shows qui étaient mis en scène par des comédiens blancs. À l'arrivée, c'est un tabou absolu aux États-Unis. Il y a une histoire derrière tout ça. Quand vous avez compris cette histoire, vous comprenez mieux pourquoi un déguisement de carnaval où on se peint en noir peut choquer certaines populations. Une fois que vous avez compris le contexte, ça n'empêche pas que vous pouvez discuter de la pertinence de vouloir empêcher les uns et les autres de par exemple de rendre hommage à une culture en s'habillant avec des vêtements africains si vous en avez envie, de se déguiser avec une plume avec une coiffe d'indien si vous en avez envie, mais ça permet l'expression de ces revendications identitaires aux États-Unis permet quand même à des minorités d'exprimer des revendications qui peuvent être entendues.
Est-ce qu'il y a tyrannie pour autant ?
C'est dans certains milieux, c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus présent. C'est quelque chose qui rend la vie quotidienne difficile, qui fait que les gens sont extrêmement prudents dans leur expression, que vous pouvez vous trouver en difficulté très facilement, que vous pouvez être taxé, par exemple, d'appropriation culturelle parce que vous portez des boucles d'oreilles créoles ou parce que vous avez une coiffure qui n'est pas censée vous appartenir. Ça, c'est pas des petits faits qui n'existent pas. C'est quelque chose qui arrive dans la vie de tous les jours et qui font que, finalement, qui aboutissent finalement à ce que les groupes soient de plus en plus séparés. D'ailleurs, les gens se mélangent de moins en moins parce que personne ne veut s'exposer à tous ces risques. Mmh. Tyrannie, non, je pense pas. C'est excessif. Mais c'est vrai qu'on est plutôt en train d'aller à l'opposé d'un vivre ensemble.
Alors il y a néanmoins, et vous le rappelez, aux États-Unis une grande fierté à être américain, qu'on retrouve un peu moins chez nous, cette foi dans son pays, ce respect de la nation et de ses symboles. Face à cette possible américanisation de l'Europe, Régis Debray appelait, lui, dans son ouvrage « Civilisation », à repenser ce qu'est notre civilisation. La solution, disait-il, serait de faire de la France un creuset qui accueille, mais qui fonde une unité en multiplicité. Vous employez-vous un futur proche, vu en Amérique, bientôt en France, là où Régis Debray utilisait l'affirmative et le présent, comment nous sommes devenus américains, c'était dans son ouvrage paru chez Gallimard l'an passé. Qu'est-ce qu'il faut faire, d'après vous, pour que nous ne prenions pas la même direction, pour que nous restions ce que nous sommes et que nous ne soyons pas influencés outre mesure par ce qui se passe et ce qui se joue outre-Atlantique dans une histoire différente?
Oui, Bon, d'abord, il y a des choses, y compris dans le livre, dans la tendance que je décris, il y a des choses très positives aussi qui viennent des États-Unis, même si, bien sûr, par exemple, dans tout un chapitre qui est sur le travail, où il y a une façon de voir les choses aux États-Unis qui peut inspirer la France. Vous voyez, il y a beaucoup d'autres exemples où on pourrait s'inspirer des États-Unis. Donc, je voudrais pas faire penser que c'est tout ce qui vient des États-Unis est une catastrophe. Pour ce qui concerne la citoyenneté, bien sûr, le contrat de citoyenneté américain repose sur l'allégeance au drapeau et comme vous le savez, c'est beaucoup plus difficile à respecter quand vous avez un président comme Donald Trump, pour commencer. Donc, le modèle américain est ébranlé par le fait d'avoir un président auquel il est difficile pour une partie des Américains de s'identifier. Vous avez aussi tous ces athlètes qui aujourd'hui mettent un genou en terre quand l'hymne national est joué. Ce qui est vraiment une transgression très forte aux États-Unis pour montrer qu'ils refusent ce contrat de citoyenneté, cette allégeance au drapeau. En France, on a justement, avec ce modèle universaliste, jamais eu ce contrat de citoyenneté. Si maintenant la France évolue, comme je le pense, dans un sens plus américain, n'ayant pas ce contrat de citoyenneté, cet amour de la nation et ce respect du drapeau, c'est vrai qu'on risque d'avoir un problème, puisque ce qui tient la nation aux États-Unis, en tout cas la tient en partie, n'existe pas en France comme espèce de hyperstructure qui pourrait aider la nation. Donc, j'ai pas de solution comme ça en deux minutes, mais je vois plutôt une crise du vivre ensemble qui risque d'exister si la France continue à évoluer dans cette direction.
Est-ce que vous pourriez bientôt écrire un deuxième tome, vu en France, bientôt en Amérique ?
Non, je crois pas. Je crois que vraiment les États-Unis sont un laboratoire. Et qu'il y a très peu de chances que la France inspire l'Amérique. C'est vraiment beaucoup plus les conditions démographiques, socio-économiques américaines qui sont en train de... C'est pas la France qui essaye d'imiter l'Amérique, c'est les conditions de la vie en France qui ressemblent de plus en plus aux conditions socio-économiques des États-Unis qui fait qu'on va avoir les mêmes événements.
Merci beaucoup Géraldine Smith, vu en Amérique, bientôt en France. Votre essai, enquête, reportage vient de paraître chez Stock. Merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Mayenne Escovic avec Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des idées, à Oriane Delacroix et Isolde Sicard pour La Grande Table culture, avec l'aide très précieuse de Jeanne Copé et de Jordan Joseph. À la réalisation aujourd'hui, Milena Elig avec Nicolas Delbas. Nicolas, merci beaucoup. Très bel après-midi sur France Culture.